Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Sylvain Roy du Parti québécois nous explique pourquoi il réclame qu'on puisse prendre une petite bière, pas trois là, à la chasse, alors que le projet de loi 88 bannit tout alcool pendant et après l'activité de la chasse. Le député gaspésien revient aussi sur son opposition à l'application de la loi 101 au niveau collégial. Sur cette même question, on échange avec Pierre Curzi, ancien député péquiste puis député indépendant, qui aurait voulu que le PQ s'engage en ce sens il y a 10 ans. Il se sentait même tellement seul dans le combat pour le français, rappelle-t-il, qu'il avait claqué la porte du PQ. Mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par parler du projet de réforme de mode de scrutin qui est complètement dans l'impasse. Il fallait qu'on adopte un projet de loi, selon le directeur général des élections, en février dernier, pour qu'on puisse avoir un référendum comme prévu le 3 octobre 2022 sur le changement de mode de scrutin. Or, c'est pas mal clair qu'il faut oublier ça.
Oui, le gouvernement actuel aura été le gouvernement, est déjà le gouvernement qui est allé le plus loin sur le front de la réforme du mode de scrutin en accouchant et en déposant un projet de loi concret qui avec des modalités précises, mais on sent que son enthousiasme décroît. La COVID a parfois le dos large. Hein. On peut imaginer que bon, ça a été rendu public à l'automne 2019 et après est arrivé ce virus. Mais on peut aussi penser que cette perte d'enthousiasme, on l'aurait probablement vécu aussi même sans la COVID. Et là, on peut se demander si le projet, font la stratégie, c'est pas de le laisser mourir au feuilleton.
Donc, c'est-à-dire de... Rappelons, c'est une promesse formelle de François Legault. Il s'était engagé à changer le mode de scrutin. La promesse a été diluée tranquillement. Ça a été finalement une promesse de déposer un projet de loi et de le faire adopter. Puis finalement, déposer un projet de loi. Donc, on ne cesse de diluer finalement la promesse. Puis là, on a un projet de loi. Il est tout là. La semaine passée, là, François Legault disait, ben là, pensez-vous qu'on va mettre l'accent là-dessus? Pauvre Sonia Lebel a bien d'autres choses à faire. Sonia Lebel, c'est la ministre responsable. Donc, ouais, c'est ça.
Une ministre responsable qui a changé de responsabilité depuis, mais qui a toujours conservé la responsabilité de ce dossier-là.
Oui.
Et là, d'une certaine façon, c'est la stratégie un peu des moyens dilatoires. Donc, on laisse passer le temps. On dit pas nécessairement qu'on a changé d'idée. On fait juste dire que c'est pas la priorité et donc que le temps va finir par faire son œuvre. Or, pour lutter contre cette inertie, certains partis politiques et le chroniqueur Jean-Marc Salvet ont proposé une idée quand même assez intéressante. Il faut comprendre que le projet de loi, il fait 227 articles. Il comprend des dispositions très détaillées sur le nouveau système électoral, qui est pas en soi si simple, et aussi les modalités particulières pour organiser un référendum en même temps que des élections. Et le projet de loi, il est bloqué à l'étude par article. Il y a eu des consultations qui ont eu lieu, des groupes qui ont comparu en commission parlementaire. Et là, il y a des gens, dont Jean-Marc Salvet, qui proposent de dire, ben, s'il y a un délai là, à respecter pour avoir le temps d'organiser le référendum, pourquoi pas scinder l'étude du projet de loi en deux et adopter d'abord ce qui rend le référendum possible et plus tard, si on a le temps, le contenu de la réforme du mode de scrutin. Cet aspect très lutte contre la montre est assez fascinant parce que D'abord, en Europe, il y a un standard qui est assez bien exprimé par la Commission de Venise, qui est une espèce de commission organisée par le Conseil de l'Europe pour justement dégager des bonnes pratiques démocratiques. Et il y a certains États européens, dont la France, si je me trompe pas, qui ont intégré cette règle-là dans leurs ordres juridiques. La règle est assez simple, c'est on touche pas au mode de scrutin à un an d'une élection. Parce que ça sent la manipulation, le changement de dernière minute tactique qui créerait de nouvelles règles du jeu pour permettre à l'un des joueurs de l'emporter. Je crois pas qu'on est dans cette dynamique-là au Québec, mais c'est un standard quand même assez bien établi en Europe, l'idée que une réforme du mode de scrutin, c'est pas approprié de faire ça dans la dernière année qui précède une élection. Deuxième point sur cet aspect temporel, c'est la tendance chez le directeur général des élections, peut-être au nom de l'intérêt public, dont il est en partie le gardien, mais peut-être aussi au nom d'un intérêt logistique qui est le sien, là, de pas mettre trop de pression sur son organisation, à exiger des délais extrêmement longs, là, extrêmement importants.
Ah oui, c'est
pour
vrai.
Dire, on est incapable de faire une réforme, de mettre en œuvre un changement, d'organiser dans ce cas-ci, pas d'organiser un nouveau système électoral, là, de seulement organiser un référendum.
Ben oui.
Alors moi, ça m'intrigue parce que
oui.
Vous savez que tous ces autorités indépendantes, que ce soit le vérificateur général, la protectrice du citoyen ou le directeur général des élections, ce sont des autorités qui sont des gardiens de l'intégrité d'un aspect de notre gouvernance, dans ce cas-ci, le système électoral. Et un peu comme nos juges, ben, ils sont les gardiens, mais il n'y a personne qui est gardien du gardien, hein. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir.
Mais on pourrait dire l'Assemblée nationale. On pourrait.
Oui, dans une certaine mesure, mais c'est pas.
Mettons, à la majorité là, d'une résolution qui dirait le directeur général des élections doit se manier, doit se dépêcher.
Oui. Ben justement, dans le scénario, là, il y a ici une logique transpartisane qui ferait en sorte que on dirait au DGE, s'il vous plaît, là, faites un effort.
Mais oui.
Mais chose certaine, avant, là, sous la loi sur les consultations populaires, un référendum pouvait être déclenché à tout moment avec un avis quoi, là, de 30 jours. Donc, en l'espace de 30 jours, le directeur général des élections était capable d'organiser un référendum à l'échelle de tout le Québec.
Ah oui.
Et là, ça lui prend un an pour en organiser un. Bon, il paraît que c'est lié à l'histoire de qui va présider le camp du oui et du non. Dans les modalités actuellement proposées, il y a des délais importants, mais ces délais-là, ils pourraient être réduits. Dans la loi sur les consultations populaires, le chef du camp du oui et du non, c'était des députés, des élus de l'Assemblée nationale qui désignaient un chef pour chaque camp. Là, ça viendrait plus de la société civile. Peut-être que ça demande plus de temps, mais en tout cas, moi, ça me fascine cette manière-là d'arriver et de dire peu importe ce que veulent les élus, moi, je suis pas capable de livrer. C'est impossible.
Mm-hmm. Je suis curieux de savoir, toi, Patrick, face au changement de mode de scrutin, es-tu pour ou contre la réforme qui est proposée, là?
Ah, ça, c'est la grande question. Ah, je vais être honnête, là, l'intensité de ma préférence est très, très faible. Ça dépend parfois de la dernière personne à qui j'ai parlé. Mais chose certaine, je pense que la formule qui est proposée dans ce projet de loi, elle est intéressante parce que justement, c'est une formule mixte. Donc, on additionne les avantages et les inconvénients de chaque système.
C'est ça.
Et en quelque sorte, on neutralise les inconvénients. C'est sûr que mon enthousiasme pour une réforme du mode de scrutin, elle est plus grande à Ottawa qu'à Québec parce que sur le plan de l'organisation du pouvoir, il y a une grande concentration du pouvoir dans l'exécutif fédéral qui nomme les sénateurs, nomme les juges des cours supérieures. Et donc, à Ottawa, on a un pouvoir plus scindé, partagé par un mode de scrutin qui force à un partage du pouvoir. Moi, ça me conviendrait parfaitement. Mais à Québec, je vois une espèce de paradoxe. Un Québec qui, dans la fédération, n'a pas tous les pouvoirs dont il a besoin pour défendre son projet de société particulier, sa langue, sa tradition civiliste, etc., etc. Je trouverais ça dommage que par un mode de scrutin, on vienne se lier les mains dans l'exercice du peu de pouvoir dont on dispose.
Mais les défenseurs de cette réforme-là disent que il faut pas se leurrer. Là, on n'est vraiment pas dans une proportionnelle à l'israélienne où il y a uniquement une circonscription puis il y a des pourcentages de sièges. Là, c'est vraiment vraiment mixte et on évite finalement l'éclatement du pouvoir qui, c'est ça qui est paradoxal, on dit souvent le mode de scrutin actuel, le mode uninominal à un tour, lui, il tend vers le bipartisme, donc il tend à créer deux partis, un peu comme aux États-Unis, comme... mais finalement, le multipartisme, c'est installé malgré tout depuis quelques décennies au Québec, mais je dirais aussi au Canada.
Oui, deux choses là-dessus. Donc, je suis méfiant à l'endroit des réformes du mode de scrutin, mais celle qui est proposée devant nous, elle est tellement modérée que moi, personnellement, elle pourrait me convenir parce que je pense qu'on réussirait à dégager des majorités. Je pense aussi que le jeu des prédictions est à peu près impossible. Sous ce mode de scrutin, est-ce qu'il se créerait un nouveau parti égalité? Est-ce que, par exemple, il y aurait encore deux partis indépendantistes ou un troisième? On ne sait pas. Ça dépend un peu des choix politiques qui sont faits par chacun. Mais dans cette formule-là, je pense qu'on atténue grandement les inconvénients de la proportionnelle. Et en même temps, on développerait au Québec notre spécificité dans notre manière de vivre le parlementarisme. Donc, cette réforme est intéressante. Sur le multipartisme, c'est fascinant de voir en effet comment un mode de scrutin hostile au multipartisme comme celui que l'on connaît a malgré tout, depuis quelques décennies, laissé une grande place à des formations politiques tierces. À Ottawa, c'est très clair, c'est les régionalismes qui font ça. Hein. C'est vrai que le Canada, c'est plusieurs nations, peuples ou plusieurs communautés, peu importe le terme qu'on utilise. Donc, ça, c'est à Ottawa, c'est ce qui explique pourquoi on a plusieurs partis. À Québec, je pense qu'on sous-estime. D'une certaine manière, la proportionnelle, on l'a déjà adoptée. On l'a adoptée lors de nos réformes, nos dernières réformes sur le financement des partis politiques.
Ah oui.
On a littéralement réduit à presque rien le financement privé. Hein. On parle de 100 $ par année par individu. Donc, le financement privé est devenu, des particuliers, est devenu un facteur marginal. Et l'essentiel du financement des partis politiques dépend du poids proportionnel de leur électorat. Mm-hmm. Et donc, d'une certaine manière, les partis qui étaient déjà dans le système lorsqu'on a créé ce financement, ce système de financement-là...
Sont privilégiés.
Ben, ils sont pas tuables. Parce que même si, par exemple, demain matin, Québec solidaire ou le Parti québécois vivait un échec électoral cuisant, avec très, très peu de sièges à l'Assemblée, ils auraient quand même, en vertu de ces règles de financement... un minimum de financement fourni par l'État qui donnerait probablement ce qu'il faut pour se relancer.
Patrick, est-ce qu'il n'y aurait pas là une base éventuelle de recours là, devant les tribunaux? On peut trouver de tout dans la Charte des droits, dans les Chartes des droits.
Oui. sous le régime de nos chartes, il y a toujours une raison pour évidemment voir dans cette limitation des dons une limitation de la liberté d'expression. Il y a actuellement un citoyen, je crois, de la région de Québec, du moins il est représenté par un cabinet d'avocats de la région de Québec, qui conteste là le nouveau dispositif. C'est un dossier qui va cheminer, là, qui chemine tranquillement. Il y en a eu dans le passé, l'affaire Libman, l'affaire Harper. Stephen Harper, avant d'être premier ministre, a été président d'un groupe de pression qui a contesté les règles sur le financement. Donc, c'est inévitable qu'il soit contesté. Il y a quand même, comme toujours en matière de droits et libertés, une capacité pour l'État de justifier son système, qui a une raison d'être, puis qui choisit certains moyens. Donc oui, ça va être à surveiller, mais ce système de financement public, il rend la vie très, très difficile à des nouvelles formations politiques, comme par exemple un NPD Québec, ou disons un Parti conservateur du Québec, là, comme on a vu en fin de semaine avec son nouveau chef.
On pourrait y voir une sorte de limite aux droits d'association?
Oui, oui, tout à fait. C'est un des enjeux. Liberté d'expression, liberté d'association, mais en même temps, ces droits-là sont pas absolus. Il y a des raisons pourquoi on limite le financement. Mais c'est quand même fascinant de voir comment indirectement, à travers la proportionnelle, on a, à travers un financement proportionnel, on a créé une place pour le multipartisme. Reste à savoir si on va ajouter à cela une réforme du mode de scrutin. Personnellement, j'ai l'impression que les carottes sont cuites et que la proposition de scinder le projet de loi en deux est comme l'ultime moyen de pression pour forcer le gouvernement à au moins assumer ses choix plutôt que de se cacher un peu derrière le fait qu'il y a d'autres priorités et qu'on manque de temps.
Il nous reste peu de temps. Parle-nous des anglophones de Montréal qui auraient, selon toi, la tentation de la partition.
Oui, trois ou quatre dossiers qui se jouent dans ce mois d'avril et qui, à mon avis, vont être déterminants quant à au lien organique entre le Québec et sa minorité anglo-montréalaise. La semaine dernière, à la Cour supérieure, on traitait au fond de la contestation de la réforme des commissions scolaires. Mm-hmm. On se souvient, Québec a adopté une réforme et a prévu un statut particulier pour les commissions scolaires anglophones. Ben oui. Les anglophones conservent leurs élections, mais pour les anglophones, c'est pas assez. Et ils utilisent l'article 23 pour dire « Québec nous impose trop de règles de représentativité et d'éligibilité sur les conseils d'administration de ces centres.
Ah, »
Donc,
oui.
Même malgré un statut particulier, c'est pas assez. Et ça va être un dossier important qui va se déterminer.
Rappelle-nous, l'article 23, tu as parlé de l'article 23, c'est de la Charte des droits fédérales.
Oui, de la Charte canadienne, c'est le droit à l'instruction dans la langue de la minorité qui comprend une capacité à gérer leurs propres écoles. Et c'est ça aussi qui va être en cause demain. Parce qu'on prévoit que la décision du juge Blanchard dans le dossier loi sur la laïcité va être rendue demain. Un des arguments qui a été plaidé pour les anglophones, c'est que leur droit de gérer leurs écoles à leur manière devrait leur permettre d'échapper à cette règle. Durant la crise de la COVID, on a vu au moins à deux reprises les commissions scolaires dire « Nous, là, le retour en classe, c'est nous qui décide la date, c'est pas Québec. » Encore une fois, on utilise l'article 23 de manière très extensive comme pour se détacher là, complètement du projet national québécois et dire « Nous, on fait nos affaires à côté. » Une logique partitionniste, si je peux dire. Et
ça me fait penser aux diffusions. Les diffusions, ce thème-là était très présent dans les diffusions de 2004. Je me souviens très bien, je l'ai couvert, puis on voyait que les anglophones voulaient comme se séparer, là, ne pas faire partie du Grand Montréal.
Et la réforme de la Charte de la langue française, qui devrait être rendue publique d'ici quelques jours, quelques semaines,
oui.
Ça sera aussi un dossier, parce que plus on protège le français, il arrive que lorsque l'on protège le français, il arrive que la communauté anglophone voit ça plutôt comme une menace pour ses propres droits. Donc, on a vraiment tout un menu, là, plusieurs petits dossiers anodins, mais quand on les met tous ensemble, c'est un peu la capacité du Québec de former un tout avec, oui, une minorité nationale anglophone qui se joue. Et c'est le degré, là, la capacité de cette communauté anglophone de faire fi du reste du Québec au nom de l'article 23 qui va probablement se dessiner là, dans les prochaines semaines.
Sujet déprimant, mais qui nous annonce plusieurs chroniques érotisantes de notre super chroniqueur constitutionnel. Merci beaucoup, Patrick.
Merci, Antoine.
Patrick Taillon est aussi, évidemment, professeur de droit à l'Université Laval. Et vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Nul ne peut consommer une boisson alcoolisée lorsqu'il chasse. C'est le projet de loi 88 qui dit ça. Et mon prochain invité est contre cet article-là qui a été inséré dans le projet de loi. C'est Sylvain Roy du Parti québécois, député de Bonaventure. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Pourquoi vous êtes contre ça? C'est vrai que ça peut être dangereux si on est sous l'effet de l'alcool, puis on chasse, on peut se mettre à tirer au mauvais endroit.
Ben, regarde, faut pas en mettre trop, là. Le chasseur n'est pas une sous-catégorie d'individus dans la société. Ce sont des gens responsables. Tu n'as pas le droit de prendre ta voiture après si tu dépasses 0.8, mais ça devrait être la même règle qui s'applique aux chasseurs. Qui plus est, tu as passé l'avant-midi à la chasse, tu rentres dans la pourvoirie, tout inclus, tu manges un bon repas, tu n'as pas le droit de prendre un verre de vin parce que tu vas avoir consommé un verre de vin et tu ne peux pas retourner à la chasse en après-midi. C'est n'importe quoi.
Ouais.
Et faut quand même avoir du jugement dans ce dossier-là et permettre aux chasseurs de pratiquer une activité de loisir en respectant les règles qui sont établies actuellement. Mais je vois pas pourquoi on durcirait d'une manière très significative le comportement ou à tout le moins les règles par rapport aux chasseurs dans leur activité. Là. Ça, je ne comprends pas. Puis, il n'y a pas juste moi qui ne comprends pas, il y a pas mal de monde. Et j'ai parlé au ministre, puis le ministre est prêt à modifier l'article qui traite de zéro consommation. Et, autre enjeu, qui va assurer l'application de cette loi-là? C'est pas les agents de la faune, parce qu'ils n'ont pas d'équipement pour aller vérifier le taux d'alcoolémie en pleine forêt.
Mais ça peut se corriger. On pourrait, à la limite, leur donner des ballons, comme on dit.
Oui, on pourrait leur donner ça. Et aussi, il faudrait leur donner l'autorisation d'arrestation et les mêmes droits que les policiers. Donc, il y a pas mal de trous là, dans le projet de loi. Là. Et sur cet article-là, pour le moment, c'est pas applicable pour les agents de la faune parce qu'ils n'ont pas les instruments. Ils n'ont pas la capacité d'arrestation. Et moi, je trouve que c'est discriminatoire par rapport aux chasseurs.
Donc, alors, vous me dites que le ministre est ouvert à enlever cet article-là. Donc, c'est problème réglé un peu, déjà.
Il va juste retourner à l'article de la consommation d'alcool avec... parce que quand tu vas à la chasse, à moins d'y aller à pied, là, en arrière de la maison chez vous, mais en général, tu es en VTT, tu es en côte à côte, en fécorp, tu es en voiture, fait que ça vient... C'est ça, c'est là que ça régule le comportement. C'est 0.8, tu n'as pas le droit. Si tu prends 3 bières, arrête ça là. Mais tu ne peux pas te rendre à ton trou de chasse. Tu sais, en général. Fait que c'est ça, la loi. Donc, moi, je trouve que c'est correct. Puis, il y a dans les chasseurs, ça a des têtes brûlées. Puis ça a des, et 95-96% des gens respectent la loi, sont corrects, ne font pas d'abus. Tu as toujours du monde qui exagère. C'est comme dans n'importe quoi.
Quel pourcentage, selon vous, Sylvain, des chasseurs vont à la chasse pour prendre une brosse?
Ben, c'est la même catégorie qui prend une brosse tout le temps. C'est-à-dire, qui prennent une brosse à la chasse ou à la Saint-Jean ou pour fêter, je sais pas, me lever du soleil ou me coucher. Je veux dire, la gang qui prend un coup, ça prend un coup en général pas mal solide. Je veux dire, il y a toutes les catégories. Tu ne deviendras pas alcoolique parce que tu rentres dans le bois et tu vas à la chasse. À mon avis, ça n'a rien à voir. Puis ça, ce sont des préjugés qui ciblent les chasseurs. Le chasseur, c'est qui? C'est moi. C'est monsieur, madame, tout le monde qui pratique une activité de loisir.
Mais combien de fois, le lundi matin, on entend dans les nouvelles qu'il y a eu un accident de VTT, les gens étaient justement sous l'effet de l'alcool. Et c'est cet hiver, là, les motoneiges.
Les motoneiges.
Aussi. Oui. Donc, il y a quand même un problème qu'il ne faudrait pas nier dans ces activités-là extérieur et c'est...
Absolument, absolument. Mais la loi est là, elle existe. À moins qu'on fasse descendre la règle à 0.5, à 0.05, mais la loi existe et les accidents en VTT, en motoneige, en voiture associée à l'alcool existent, mais on diminue de manière significative quand même. Et moi, à mon avis, on ne retrouve pas un niveau plus élevé dans le domaine de la chasse que dans les autres activités. Donc, il y a une statistique dans les comportements humains associés à la consommation d'alcool qui est transversal et qu'on retrouve dans l'ensemble des secteurs d'activité de loisirs. C'est dommage, chaque décès est tragique, chaque accident aurait pu être évitable, mais là, parce qu'on enferme tout le monde puis on interdit tout. Je pense que pour revenir à zéro alcool, à la chasse, moi, je crois qu'il faut revenir à la loi actuelle, c'est-à-dire 0.8 dans le comportement de déplacement, puis ça vient réguler les comportements.
Vous avez été le premier, en tout cas que moi j'ai entendu, à sonner l'alarme sur la pénurie de bois au Québec, puis sur l'augmentation hallucinante du prix du bois. Est-ce qu'il y a des progrès là-dessus? Vous avez demandé là, comme une préférence québécoise pour les débouchés du bois. Est-ce qu'il y a des progrès là-dessus?
Ben, je sais que, bon, il y a des personnages pas mal plus important que le simple député de Bonaventure qui ont compris que c'est un enjeu important, comme l'Association des quincailliers du Québec, l'Association des entrepreneurs de construction, sont en négociation avec le gouvernement pour trouver des solutions. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai trouvé dans la loi où est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus. Puis j'ai parlé à notre ancien collègue, Nicolas Marceau, un ancien ministre de l'Économie, qui m'a expliqué que l'article 20 du GATT, paragraphe J, dit qu'on peut restreindre les exportations dans les situations de sauvegarde de la santé publique, de protection des animaux. Il y a quelques règles. Puis, avec cette clause-là, on serait capable de restreindre l'exportation du bois aux États-Unis pour satisfaire les besoins domestiques de l'économie locale. Et pourquoi je dis ça? Parce que, 1er juillet, il y a des maisons qui ne seront pas livrées et il y a des gens qui vont être dans la rue. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Des campings improvisés à Montréal, là, ben, il va en avoir un qui va être pas mal plus grand que cette année. Pourquoi? Parce qu'on a une pénurie de matériaux dans une nation qui est une productrice de matières premières à ce niveau-là. C'est inconcevable. Donc, moi, par rapport à l'enjeu de santé publique que représente l'augmentation du nombre de sans-abri parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à du logement, à du loyer, puis les maisons ne sont pas livrées. Mais je revendique la clause de restriction des exportations pour permettre à l'économie québécoise d'une courte liquidité.
Ça passerait le test des accords internationaux?
Ben, il y a un autre élément. Ça s'appelle un enjeu de réciprocité. Les Américains ont retenu les vaccins et les masques.
Okay? Mm-hmm.
Ils nous ont fait le coup, là. Ils nous ont interdit d'avoir accès aux vaccins et aux masques. Ben, nous, on peut, par effet de réciprocité, restreindre le bois. On peut le faire. Mais ça prend de la colonne vertébrale. Ça prend une volonté politique. Puis, c'est pas moi encore, le député de Bonaventure, là, dans le fond, David Deschaleurs, qui est capable de faire ça. Il faut que le gouvernement comprenne ça. Mais ça vient de la population. Le prix a augmenté. Écoute, hier, j'étais voir un producteur de bois. Lui, il vend une corde de 200 $. Je vais te donner un exemple de ça. Mm-hmm. Bon. Pour faire 1 000 pieds de bois, ça prend 2 cordes. OK? 2 cordes de 7, tu fais 1 000 pieds de bois. 1 000 pieds, ça veut dire 10 pieds d'eau par 100 pieds de long. 1 pouce d'épais. Donc, c'est 1 000 pieds de surface de bois.
Ouais.
Lui, il va avoir 400 $ pour ses 2 cordes. Le bois se vend. Le 1 000 pieds transformé, là, au bout de 2 heures, là, de moulin, même pas c'est 4 000 $.
Ouh.
OK? C'est incroyable. Et moi, ce que je dénonce là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de partage de richesse actuellement dans la flambée des prix du bois de construction. Les travailleurs en usine n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Les camionneurs n'ont pas vu une bonification significative. Pire que ça, ils ont vu leur assurance tripler depuis des années.
Les patrons, eux?
Les patrons, eux autres, ils deviennent riches et prospères. C'est que c'est des machines Afrique, là, actuellement.
C'est ça.
C'est un dossier qu'il faut travailler, mais il y a une belle initiative qui s'est créée dans la vallée de la Matapédia.
Ah oui?
Un jeune homme a créé un site web pour demander aux propriétaires terriens de lots forestiers qui veulent mobiliser du bois, vendre du bois, ben de l'offrir à des petites scieries, des scieries portatives, pour qu'ils transforment du bois pour le vendre à un prix décent aux communautés locales. Donc, ce sont des genres d'ententes de partenariat très localisés pour offrir des produits forestiers, du 2x4, 2x6, de la planche, à des gens qui ont besoin de faire des petites rénovations. C'est sûr que là, pour bâtir une maison, il faut avoir une problématique de certification de bois et d'assurance, là. Mais pour faire des petits travaux, des agrandissements, c'est merveilleux. Fait que moi, c'est une stratégie que je compte mettre en valeur. Puis qui pourrait donner une leçon aux gros industriels qui prennent pour acquis le marché local, puis qui poussent beaucoup de bois aux États-Unis. Parce qu'à un moment donné, quand les États-Unis, ça va être terminé, là, ils vont se revirer vers le marché domestique pour écouler leur surplus.
Oui.
Mais peut-être qu'on va trouver des alternatives. On commence à acheter des poutres en aluminium pour bâtir.
Ouh.
Mais toutes les entreprises vont avoir commencé à acheter des poutres en aluminium. Penses-tu qu'ils vont revenir au bois? Ils vont avoir développé, acheté de l'équipement, des outils, ils vont avoir développé des techniques de construction différentes, ouais, pour compenser l'augmentation faramineuse du prix du bois.
Donc, mais ça va peut-être être bon pour notre industrie de l'aluminium?
Je l'espère. Parce que là, il m'est venu des affaires aux oreilles que je n'ai pas trop aimées. Exemple, une maison des aînés au Lac-Saint-Jean qui serait bâtie avec de l'aluminium de la Chine. Fait que ça reste à valider, là.
Mais, ben voyons donc. Ça serait vraiment incroyable. On est dans la vallée de l'aluminium là-bas. Là. Voyons donc. C'est fou.
Ouais, c'est l'incohérence. On ne sera pas au premier effet de l'incohérence. Souvent, les entrepreneurs en construction parlent d'importer du bois de l'extérieur.
Ah, ça me fait penser au saumon fumé qu'on achète en Gaspésie qui vient du Chili.
Oui. Ouais. Ben là, je vais avoir une bonne nouvelle pour toi. Les Autochtones de Restigouche viennent d'avoir une entente avec le fédéral pour vendre des produits de la mâche.
Bon, formidable. En terminant...
Saumon, homard et tout ce que tu veux, mais c'est pas bon pour la ressource. Bon.
C'est pas bon pour la ressource, ouais. Ben, si c'est bien géré, peut-être.
À suivre.
Très bien. Vraiment, en terminant rapidement,
oui.
Vous êtes opposé, Sylvain, à... à cette idée des jeunes péquistes d'appliquer la loi 101 au cégep, qui est finalement devenu le projet du Parti québécois, là. Ça fait des années que Pierre Curzi, il y a une dizaine d'années, poussait pour ça. Vous, vous êtes opposé, vous êtes le seul dans le caucus. Pourquoi?
Ben, premièrement, on avait le choix. Hein? Je pense qu'on avait la liberté d'exprimer notre position.
Ouais.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, puis je me suis dit, ben, tu sais, c'est trop localisé, à mon avis, comme stratégie, dans l'écosystème du cégep, pour régler la problématique. On ne pourra pas régler le problème du déclin de la langue française avec une stratégie micro-localisée dans un écosystème spécifique. Moi, j'aurais aimé qu'on élargisse tout ça. Je vais donner un exemple. On a ce qu'on appelle la déréglementation des frais de scolarité à l'université. On permet maintenant, on facture des 25-30 000 à une riche clientèle anglophone pour venir suivre des cours dans les universités au Québec. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça crée, c'est que McGill et compagnie font de l'argent avec ça. Mais les autres universités qui veulent avoir accès à cette clientèle-là se tournent vers des programmes en anglais pour attirer cette clientèle richissime-là. Mais ça vient pénaliser les étudiants québécois.
Mais
parce
oui.
qu'on transforme on anglicise les programmes pour être attractifs face à une clientèle fortunée internationale. Ça aussi, c'est important. Puis c'est un autre enjeu qui doit être défendu. Moi, là, je ne suis pas contre la loi 101, loin de là, mais j'aurais aimé qu'on ait une approche plus globale. Et je n'ai qu'exprimé mon droit de vote, mais je suis solidaire avec mon parti, là. Faut faire attention, là. Mais j'ai émis une autre opinion. Puis j'ai une autre. Puis je suis sociologue, hein. Puis, tu sais, j'ai quand même une vision de la culture. Moi, je me dis, il faut travailler sur les déterminants d'attractivité, d'attachement de notre culture.
Ouais.
Ça passe. Puis c'est pas toujours par des mesures législatives et coercitives, Il faut démontrer bon, comment on met notre culture en valeur, ben c'est en démontrant qu'elle est émancipatrice, qu'on crée de l'innovation, d'adaptation, de la prospérité. Ce sont des valeurs d'attractivité. Mais si on prend juste des lois, là, finalement, on s'en sortira pas.
Avez-vous décidé si vous vous représentez en 2022, Sylvain?
Et Sonia, je suis pas rendu là.
OK.
la politique, là, mais je vais te dire une chose, j'ai encore la passion. Parce qu'on fait des gains, je fais des. Bon, exemple, je viens d'avoir, la semaine passée, j'ai réussi à faire reconnaître la maladie de Lyme comme maladie professionnelle.
Oui.
C'est un combat que des groupes ont mené. Tu sais, sur la charte, je suis toujours actif. Fait que moi, là, je le fais parce qu'on fait des gains, puis on empêche souvent notre civilisation de reculer. Puis cette passion-là, je l'ai encore. Fait que voilà les 10 que je te donne.
Merci beaucoup, Sylvain Roy.
Ça m'a fait plaisir.
Je rappelle que Sylvain Roy est député de Bonaventure du Parti québécois. Il est porte-parole du PQ en matière de forêt, faune et parc, entre autres parce qu'il y a plusieurs dossiers sous sa responsabilité. Et c'est tout pour La Hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.